franceinter.fr.
Quand les climatiseurs réchauffent la planète, c'est une étude inquiétante aujourd'hui à la une de la science.
Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale.
La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps.
Voilà, fabriquer du froid pour nos intérieurs risque bien d'accélérer le réchauffement à l'extérieur avec une consommation en énergie des clims qui va exploser d'ici une vingtaine d'années dans le monde. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié la semaine dernière s'inquiète justement de la demande grandissante autour des systèmes de refroidissement et surtout de leur faible efficacité. Et Axel, on en discute avec l'un des auteurs de ce rapport.
Oui Mathieu, nous sommes avec Armin Mayer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste pour la division efficacité énergétique de l'Agence internationale pour l'énergie. Et vous avez enquêté pendant plusieurs mois, collecté des données sur la climatisation dans le monde. Et ce qui ressort de vos travaux, c'est plutôt inquiétant puisque vous prévoyez une explosion de la consommation d'énergie liée à la climatisation. C'est pourquoi ? C'est parce que le monde se réchauffe ou il y a d'autres raisons ?
Il y a plusieurs facteurs. D'abord, oui, la planète se réchauffe, mais aussi on voit aussi une croissance économique, surtout dans les pays du Sud, qui fait que les gens vont en plus le pouvoir d'achat pour obtenir un système de climatique. En fait, ça s'est déjà explosé, on peut dire, depuis 1990, les ventes ont triplé des clims globalement.
Dans le monde. Hein.
Dans le monde, oui.
À combien est-ce que vous estimez l'augmentation du nombre de climatisateurs d'ici 20 ans ?
Aujourd'hui, on est globalement à un chiffre de 1,6 milliard de systèmes dans le monde. Et ça peut aller jusqu'à 6 milliards d'ici 2050. Si toutes les projections sont correctes que nous avons faites.
Alors si on résume assez basiquement comment marche un climatiseur, c'est prendre la chaleur à l'intérieur et la rejeter à l'extérieur en consommant de l'énergie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oui, peut-être, oui. C'est une explication simple, mais en gros.
Comment on fait le lien direct avec le réchauffement climatique alors ?
Bon, ça peut être un cercle vicieux dans le sens que, surtout dans les villes, on ressent de l'effet que les villes sont souvent plus chaudes que les parcs et les forêts. Et les systèmes de climatisation ont un effet là-dessus. Donc l'air qui sort de l'immeuble contribue à ce réchauffement local. Mais globalement, ce n'est pas une liaison directe, sauf que quand vous utilisez des fossiles pour générer l'électricité, pour faire marcher ces systèmes, ça contribue à l'effet des gaz de serre.
Donc l'utilisation des énergies fossiles, hein, c'est
voilà,
ça
voilà.
Pour l'utilisation, donc dans des villes qui sont chaudes, hein, parce qu'elles ont des structures justement qui retiennent la chaleur.
Exactement.
Accentué aussi donc par le réchauffement lié au climatisateur qui expulse cet air chaud.
Voilà,
donc c'est une sorte de cercle vicieux finalement.
Hein. Oui, on se réchauffe plus pour se refroidir.
Oui.
Vous mettez dans le rapport aussi le doigt sur un point technique, c'est l'efficacité des différents climatiseurs disponibles. Qu'est-ce que vous définissez, comment vous définissez l'efficacité ?
Il y a certaines modalités de faire ça, mais pour parler simplement, un système comme votre frigo ou comme votre lave-vaisselle, elle va utiliser une somme d'énergie pour faire un résultat, que ce soit la vaisselle propre ou la chambre refroidie. Il y a une différence entre combien d'énergie le système consomme pour obtenir le même but. Donc les systèmes très très efficaces, ils consomment beaucoup moins d'énergie que les systèmes qui ne sont pas efficaces.
Est-ce qu'on peut dire qu'une clim pas efficace est plus polluante qu'une clim efficace ? Du coup, on peut le dire comme ça ?
Si ce système est alimenté par de l'énergie fossile, oui.
Est-ce qu'il existe des moyens écologiques de refroidir ou de construire une habitation qui reste fraîche sans utiliser de climatisation ?
Ben nous, dans notre analyse, on parle beaucoup des politiques d'autres pays, des gens qui font ce genre de politique, des standards minimum pour les arcos, les clims. Mais il faut considérer aussi l'architecture des immeubles, le design. Ça a un impact très important. Donc il ne faut pas seulement penser à la climatisation à la fin de la construction de l'immeuble, mais au début. pour voir s'il y a des options pour diminuer la demande de l'immeuble.
Pourtant, il y a des procédés ancestraux qui fonctionnent très très bien dans des pays chauds, où on sait construire des bâtiments avec là aussi des matériaux qui conservent la fraîcheur. Donc on pourrait aussi largement s'en inspirer du point de vue architectural aujourd'hui.
Oui, et je pense qu'il y a un trend là-dessus. Donc les gens commencent à réutiliser ces anciennes technologies et approches. Mais on a eu tendance, et on a toujours tendance à construire... Comme dans l'Occident, entre guillemets, ouais. Les bâtiments très grands, en acier, etc.
Donc. Ouais, donc on a tout faux, du point de vue énergétique, c'est ça ce qui ressort
on
ou pas
ça, on dit jamais ça.
Non, on dit jamais ça, mais on pourrait le penser avec le réchauffement, justement. C'est-à-dire que les bâtiments ne sont pas forcément adaptés à ces demandes qui arrivent de fraîcheur.
Ça, c'est sûr, oui.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de climatiser? Parce que l'été, des fois, quand on rentre dans certains magasins, il fait carrément froid. Est-ce que ce n'est pas une consommation inutile d'énergie d'aller si loin dans la fraîcheur?
Certes, oui. Il y a des standards aussi, on peut dire, écoutez, pour avoir un bon niveau de confort à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit à 16 degrés. Donc, ça peut être 19 degrés, 20 degrés. Donc, ces différences-là, entre quelques degrés, font une énorme différence au total.
Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'information à faire, parce que le nombre d'endroits où on arrive, où on gèle de froid, alors que dehors, il fait extrêmement chaud, ça, c'est complètement sidérant comme situation.
Exactement.
Donc, il faut mener des politiques en ce sens aussi, d'information sur le gaspillage énergétique.
Oui, et aussi des moyens de comment dire ça en français?
Insensibiliser, non c'est pas ça?
Sensibiliser?
Non,
d'inciter.
Pour les gens d'acheter ou procurer des systèmes plus efficaces.
Merci Patrick Lemaire pour la traduction.
Merci.
Merci à vous, en tout cas Armin Meyer, donc ce rapport qui a été publié et qui inquiète, parce qu'effectivement, vu le nombre de clims aujourd'hui, 600 millions dans le monde, et qui pourrait passer, vous le disiez, à 6 milliards donc d'ici quelques décennies, il y a lieu de prendre vraiment ce problème à bras-le-corps. Merci d'être venu nous en parler à la une, et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à force d'être mangé, la salamandre géante de Chine est proche de l'extinction. L'animal connu pour être le plus grand amphibien au monde et apprécié pour son goût raffiné subit de plein fouet les ravages du braconnage. Des chercheurs de la Société zoologique de Londres ont réalisé deux comptages en 2013 et 2016 dans les rivières de Chine. Résultat, l'espèce est extrêmement réduite ou fonctionnellement en extinction. Il se pourrait même que les seuls individus comptés par les chercheurs soient les salamandres d'élevage, laissant donc entendre que l'espèce sauvage aurait déjà disparu. Les preuves s'accumulent. Il y a 2 ans, des astronomes de l'Institut des technologies de Californie émettaient l'hypothèse d'une 9e planète dans notre système solaire, gravitant au-delà de Neptune. Eh bien, ils reviennent aujourd'hui avec un nouvel indice de taille, l'orbite inhabituelle d'un objet céleste nommé Caju, et qui serait influencé par la gravité d'une planète inconnue. Selon les estimations des scientifiques, cette 9e planète serait alors 4 fois plus grosse que la Terre et ferait le tour du Soleil en 10 000 à 20 000 ans. Et puis retour sur Terre pour finir avec une intelligence artificielle qui serait capable de détecter les symptômes de malnutrition chez les enfants. La technologie en cours de développement par l'entreprise kenyane Kimetrica, en collaboration avec l'UNICEF, permettrait un diagnostic physiologique rapide et précis des enfants de moins de 5 ans à partir de l'analyse d'une simple photo de leur corps et donc ainsi éviter de nombreux décès. Dans le monde, 5 enfants meurent chaque minute de malnutrition.